Casanova, Mademoiselle C. C. Monsieur de Bragadin, partant le lendemain pour Padoue, je l'y accompagnais. Cet aimable vieillard abandonnait à la jeunesse les plaisirs bruyants qui ne lui convenaient plus, et il allait passer au sein de la paix les jours que les fêtes vénitiennes lui rendaient ennuyeux. Le samedi suivant, après avoir dîné avec lui et lui avoir baisé la main, je montai dans une chaise de poste pour retourner à Venise. Si j'étais parti de Padoue 2 minutes plus tôt ou plus tard, tout ce qui m'est arrivé depuis aurait été bien différent, et ma destinée, s'il est vrai qu'elle dépende des combinaisons, aurait été tout autre. Le lecteur en jugera. Parti de Padoue, dans ce moment fatal, je rencontre à Oriago un cabriolet qui venait au grand trot de 2 chevaux de poste. Il y avait dedans une très jolie femme et un homme en uniforme allemand. À quelques pas de moi, le cabriolet verse du côté de la rivière et la femme, tombant par-dessus le cavalier, court le plus grand danger de rouler dans la Brenta. Je saute hors de mon chariot, sans me donner le temps de faire arrêter, et je vole au secours de la dame, réparant d'une main chaste le désordre que la chute avait occasionné à sa toilette. Son compagnon, qui s'était relevé sans accident, accourt, et voilà la belle versée sur son séant, tout ébahie et moins confuse de sa chute que de l'indiscrétion de ses jupes, qui avait laissé à découvert tout ce qu'une honnête femme ne montre jamais à un inconnu. Dans ses remerciements, qui durèrent tout le temps que son postillon et le mien mirent à relever le cabriolet, elle m'appela souvent son sauveur, son ange tutélaire. Le dommage étant réparé, la dame continua sa route vers Padoue, et moi vers Venise, où, à peine arrivé, je n'eus que le temps de me masquer pour aller à l'opéra. Le lendemain, je me masque de bonne heure pour aller suivre le Bucentaure, qui, favorisé par un beau temps, devait être mené au Lido pour la grande et ridicule cérémonie. Je prenais mon café à visage découvert sous les procuraties de la place Saint-Marc, quand un beau masque femelle me donna galamment un coup d'éventail sur l'épaule. Ne connaissant pas le masque, je ne fis pas grande attention à cette agacerie. Et après avoir achevé mon café, je reprends mon masque et je m'achemine vers le quai du Sépulcre où m'attendait la gondole de M. de Bragadin. Vers le pont de la Paille, j'aperçois le même masque attentif à regarder l'image d'un monstre qu'on montrait pour 10 sous. Je m'approche du masque et je lui demande pourquoi il m'avait battu. « Eh bien, pour vous punir de ce que vous ne me connaissez pas après m'avoir sauvé la vie, oh, je devine que c'est la belle que j'ai secourue la veille au bord de la Brenta. » Et après lui avoir fait compliment, je lui demande si elle va suivre le Bucentaure. « Oh, j'irai volontiers, me dit-elle, si j'avais une gondole sûre. » Je lui offre la mienne, qui était des plus grandes. Ayant consulté le masque qui l'accompagnait, elle accepte. Prêts à y rentrer, je les invite à se démasquer. Mais ils me disent qu'ils ont des raisons pour demeurer inconnus. Je les prie alors de me dire s'ils appartiennent à quelque ambassadeur. Car dans ce cas, je me verrais, quoi qu'à regret, forcé de les prier de descendre. Non, ils m'assurent qu'ils sont vénitiens. La gondole étant à la livrée d'un patricien, j'aurais pu me trouver compromis avec les inquisiteurs d'État, ce que je désirais éviter. Nous suivions le Bucentaure et, assis près de la dame, je me permets quelques libertés. Mais elle me déconcerte en changeant de place. Après la fonction, nous retournâmes à Venise et l'officier me dit que si je voulais leur faire l'honneur d'aller dîner avec eux aux sauvages, je les obligerais. J'acceptai car j'étais curieux de connaître cette femme. Ce que j'en avais vu alors de sa chute rendait ma curiosité très naturelle. L'officier me laissa seul avec elle et prit les devants pour aller commander le dîner. Dès que je fus seul avec ma belle, à la faveur du masque, je lui dis que j'étais amoureux d'elle, que j'avais une loge à l'opéra dont je lui offrais l'entière jouissance, et que, si elle voulait me laisser l'espoir de ne pas perdre mon temps, je la servirais pendant tout le carnaval. Si vous avez l'intention d'être cruel, je vous prie de me le dire franchement. Mais je vous prie aussi de me dire avec qui vous croyez être. Avec une femme tout aimable, que vous soyez princesse ou de basse condition. Ainsi, j'aurais espéré que vous me donnerez, dès aujourd'hui, des marques de votre bonté, ou après le dîner, j'aurai l'honneur de vous tirer ma révérence. Vous ferez ce que vous voudrez, mais j'espère qu'après dîner, vous changerez de langage, car le ton que vous prenez n'est pas engageant. Il me semble qu'avant d'en venir à une explication pareille, il faudrait commencer par se connaître. Sentez-vous bien cela ? Oui, je le sens, mais j'ai peur d'être trompé. Et que c'est singulier, et cette peur vous fait commencer par où l'on finit ? Non, je ne demande aujourd'hui qu'un mot d'encouragement. Donnez-le-moi et vous me verrez modeste, soumis et discret. Modérez-vous. Nous trouvâmes l'officier à la porte du sauvage et nous montâmes. Dès que nous fûmes dans la chambre, elle se découvrit et je la trouvais bien mieux que la veille. Il me restait à savoir, pour la forme et le cérémonial, si l'officier était son mari, son amant, son parent ou son conducteur. Car, faite aux aventures, je désirais connaître de quelle nature était celle que je venais d'entamer. Nous nous mettons à table et la manière dont monsieur et madame en agissent m'oblige par prudence à m'observer. Ce fut à lui que j'offris ma loge et elle fut acceptée. Mais comme je ne l'avais pas, après le dîner, je sortis sous prétexte d'affaires et j'allais m'en procurer une. J'en pris une à l'opéra Buffa où brillait Patrici et Laschi, et après l'opéra, je leur donnai à souper dans une auberge. Ensuite, je les conduisis chez eux, dans ma gondole, où, à la faveur de la nuit, j'obtins de la belle toutes les faveurs qu'on peut accorder auprès d'un tiers qu'on doit ménager. À notre séparation, l'officier me dit « Vous aurez demain de mes nouvelles. » « Mais où donc et comment ?»« Oh, ne vous en inquiétez pas. » Le lendemain matin, on m'annonce un officier. C'était lui-même. Après quelques compliments d'usage et lui avoir fait mes remerciements pour l'honneur qu'il m'avait fait la veille, je le priai de me dire à qui j'avais l'honneur de parler. Voici ce qu'il me répondit, parlant très bien, mais sans me regarder. « Je m'appelle P.C. Mon père est riche et considéré à la bourse. Mais nous sommes brouillés. Je demeure sur le quai de Saint-Marc. La dame que vous avez vue est née O. Elle est femme du courtier C. » Et sa sœur est l'épouse du patricien PM. Madame C est brouillée avec son mari et j'en suis la cause, comme je suis brouillée avec mon père à cause d'elle. Je porte cet uniforme en vertu d'un brevet de capitaine au service autrichien, mais je n'ai jamais servi. Je suis chargé de l'approvisionnement des bœufs pour l'État vénitien, et je tire ses provisions de la Styrie et de la Hongrie. Cette entreprise liquidée m'assure un bénéfice de 10 000 florins par an. Mais un embarras imprévu et auquel il faut que je remédie, une banqueroute frauduleuse et des dépenses extraordinaires, me mettent pour le moment dans une grande gêne. Il y a 4 ans qu'ayant entendu parler de vous, je conçus le désir de faire votre connaissance, et je crois que c'est le ciel qui me l'a fait faire avant-hier. Je n'hésite pas à vous demander un plaisir essentiel qui nous unira de l'amitié la plus étroite. Devenez mon soutien, sans courir aucun risque. Acceptez ces trois lettres de change et ne craignez pas d'avoir à les escompter à l'échéance, car je vous cède ces trois autres dont le paiement sera effectué avant l'échéance des vôtres. En outre, je vous hypothèque la conduite des bœufs pour toute l'année, de sorte que, si je vous manquais, vous pourriez séquestrer à Trieste tous mes bœufs, qui ne peuvent venir que par là. Étonné de ce discours et de ce projet qui me paraissait chimérique et dans lequel je ne voyais qu'une foule d'embarras que j'abhorrais, l'idée singulière de cet homme qui, s'imaginant que je pourrais facilement donner dans le panneau, me donne la préférence sur 100 autres qu'il devait mieux connaître, je n'hésitais pas à lui dire que je n'accepterais jamais son offre. Son éloquence redoubla pour me convaincre. Mais je l'embarrassai en lui disant que j'avais lieu d'être surpris, qu'il m'eût préféré à toutes ses connaissances, moi qui n'avais l'honneur de lui être connu que depuis 2 jours. « Monsieur, me dit-il effrontément, vous ayant connu pour un homme de beaucoup d'esprit, je me suis persuadé que vous verriez de suite l'avantage que je vous offre et que par conséquent, vous ne feriez aucune difficulté d'accepter. » Vous devez vous être désabusé à cette heure, et vous me prendrez sans doute pour un sot en voyant que je croirais être votre dupe si j'acceptais. » Il partit en me demandant excuse et en me disant qu'il espérait me voir le soir sur la place Saint-Marc où il serait avec Madame C. Il me laissa son adresse en me disant qu'à l'insu de son père, il occupait encore son appartement. C'était me dire que je devais lui rendre ma visite. Mais, si j'avais été sage, je m'en serais dispensé. Dégoûté du dévolu que cet homme avait jeté sur moi, je ne me sentis plus aucune envie de tenter fortune auprès de sa belle. Car il me parut que ce couple avait résolu de me rendre leur dupe. Et comme je n'avais nul désir de le devenir, j'évitais de les voir le soir à la place Saint-Marc. J'aurais dû m'en tenir là, mais le lendemain, poussé par mon mauvais génie, et jugeant qu'une visite de politesse ne tirerait point à conséquence, j'allais le voir. Un domestique m'ayant conduit dans sa chambre, il m'accueillit avec beaucoup de prévenance et me fit d'obligeants reproches de ne m'être pas fait voir la veille au soir. Ensuite, il me reparla de son affaire et me montra un fatras de papier, ce qui m'ennuya fort. « Mais si vous voulez accepter les trois lettres, me dit-il, je vous associerai à mon entreprise. » Par cette marque d'amitié extraordinaire, il me rendait, d'après lui, riche de 5 000 florins par an. Mais pour toute réponse, je le priais de n'en m'en plus parler de la vie. J'allais prendre congé lorsqu'il me dit qu'il voulait me présenter sa mère et sa sœur. Il sort et 2 minutes après, il rentre avec elle. La mère était une femme d'un air ingénu et respectable, mais la fille était un modèle de beauté. J'en fus ébloui. Un quart d'heure après, la très confiante mère me demanda la permission de se retirer, et sa fille resta. Il ne fallut pas une demi-heure pour me captiver. Oh, j'étais enchanté de toutes ses perfections. Et son esprit vif, naïf et nouveau pour moi, sa candeur, son ingénuité, ses sentiments naturels et élevés, sa vivacité gaie et innocente, cet ensemble enfin qui se forme de la beauté, de l'esprit et de l'innocence, ensemble, qui eut toujours sur moi un empire absolu, tout acheva de me rendre l'esclave de la femme la plus parfaite qu'il soit possible d'imaginer. Mademoiselle C.C. ne sortait jamais qu'avec sa mère, qui était dévote et pourtant indulgente. Elle n'avait à lire que les livres de son père, homme sage, qui n'avait point de roman, et elle brûlait d'envie d'en lire. Elle avait aussi la plus grande envie de connaître Venise. Et personne ne fréquentant la maison, on ne lui avait pas encore dit qu'elle était un véritable prodige. Son frère écrivait et je conversais avec elle, ou plutôt, je répondais aux nombreuses questions qu'elle me faisait et auxquelles je ne pouvais satisfaire qu'en ajoutant aux idées qu'elle avait déjà et qu'elle était tout étonnée de se reconnaître, car son âme était encore dans le chaos. Je ne lui dis cependant point qu'elle était belle et qu'elle m'intéressait au suprême degré, car, ayant menti sur ce point à l'égard de tant d'autres, j'avais peur de lui paraître suspect. Je quittais cette maison, triste et rêveur, trop pénétré des rares qualités que j'avais découvertes dans cette ravissante personne, et je me promis d'abord de ne plus la revoir, car je croyais sentir que je n'étais pas homme à lui sacrifier entièrement ma liberté en la faisant demander pour femme, quoique je la jugeasse faite à dessein pour faire mon bonheur. Il y avait 2 jours que j'avais fait ma visite à PC lorsque je le rencontrai dans la rue. Il me dit que sa sœur ne faisait que parler de moi, qu'elle avait retenu quantité de choses que je lui avais dites, et que sa mère était enchantée qu'elle eût fait ma connaissance. Elle serait, me dit-il, un bon parti pour vous, car elle aura 10 000 ducats courant de dot. Si vous venez voir demain, nous prendrons le café avec ma mère et ma sœur. Je m'étais promis de ne plus mettre les pieds chez lui. Je ne tins pas parole. Au reste, en pareil cas, l'homme se détermine facilement à manquer à sa promesse. Je passai 3 heures à causer avec ces 2 charmantes personnes, et je la quittai amoureuse à l'excès. Je lui dis, avant de m'en aller, que j'enviais le sort de celui qu'il aurait pour femme, et ce compliment, le premier qu'elle eût reçu de cette espèce, couvrit son beau visage du plus vif incarnat. En me retirant, je me mis à examiner le caractère du sentiment que j'éprouvais pour elle, et j'en fus effrayé, car je ne pouvais agir avec C.C. ni en honnête homme, ni en libertin. Je ne pouvais pas me flatter d'obtenir sa main, il me semblait que j'aurais poignardé quiconque m'aurait conseillé de la séduire. J'avais besoin de me distraire. Alors j'allais jouer. Le jeu est parfois un lénitif excellent pour calmer l'amour. Je jouais de bonne heure et je me retirai la bourse pleine d'or. Le lendemain, PC vint me voir et me dit d'un air tout joyeux que sa mère avait permis à sa sœur d'aller à l'opéra avec lui, que la petite en était enchantée parce qu'il n'y avait jamais été, et que, si cela me faisait plaisir, je pouvais les attendre quelque part. Mais votre sœur, c'est elle que vous voulez m'admettre de la partie? Elle s'en fait une fête. Et madame, votre mère, le sait-elle? Non, mais quand elle le saura, elle n'en sera pas fâchée, car vous lui avez inspiré de la considération. Eh bien, je vais tâcher d'avoir une loge. Fort bien, vous nous attendrez à tel endroit. Le drôle ne me parlait plus de lettres de change, et voyant que je ne courtisais plus sa dame et que j'étais épris de sa sœur, il avait enfanté le beau projet de me la vendre. Je plaignis la mère et la fille qui se confiaient à un pareil sujet, mais je n'avais pas assez de vertu pour refuser la partie. J'allais même jusqu'à me persuader que, puisque je l'aimais, je devais accepter pour la préserver d'autres pièges, car si j'avais refusé, il aurait pu trouver quelqu'un moins scrupuleux, et cette idée m'était insupportable. Il semblait qu'avec moi, elle ne courait aucun risque. Je louai une loge à l'Opéra Saint-Samuel, et je les attendis au lieu indiqué longtemps avant l'heure. Ils vinrent et je fus ravi à l'aspect de ma jeune amie. Elle était élégamment masquée et son frère était en uniforme. Pour ne pas exposer cette charmante personne à être reconnue à cause de son frère, je l'ai fit entrer dans ma gondole. Il voulut que je le fisse débarquer chez sa maîtresse, qui nous dit d'être malade, nous priant de nous rendre à notre loge où il viendrait nous rejoindre. Je fus surpris que C.C. ne montra ni surprise ni répugnance à rester seul avec moi dans la gondole. Mais quant à la disparition du frère, elle ne m'étonna aucunement, car il était évident qu'il voulait en tirer parti. Je dis à C.C. que jusqu'à l'heure du théâtre, nous nous ferions voguer, et que la chaleur étant forte, elle devait se démasquer, ce qu'elle fit à l'instant. L'obligation que je m'étais faite imposer de la respecter, la noble assurance qui brillait sur ses traits comme la confiance dans ses regards, la joie innocente qu'elle exprimait, tout faisait accroître mon amour. Ne sachant que lui dire, car naturellement je ne pouvais lui parler que d'amour, et le point était délicat, je me contentais de fixer sa charmante figure, n'osant pas porter mes regards sur deux globes naissants arrondis par les amours, crainte d'alarmer sa pudeur. Mais dites-moi donc quelque chose, me dit-elle, vous me faites que regarder sans me dire un seul mot. Vous vous êtes sacrifié aujourd'hui, car mon frère vous aurait mené chez sa dame, qui, à ce qu'il dit, doit être belle comme un ange. Mais j'ai vu cette dame. Elle doit avoir beaucoup d'esprit. Oh, c'est possible, mais je n'ai pu m'en apercevoir, car j'ai jamais été chez elle, et j'ai l'intention de n'y aller jamais. Ne croyez donc pas, belle C, que je vous fasse le moindre sacrifice. Oh, je le croyais, car comme vous ne me parliez pas, je vous croyais triste. Mais si je ne vous parle pas, c'est que je suis trop ému du bonheur que me fait éprouver votre angélique confiance. J'en suis enchanté, mais comment pourrais-je manquer de confiance en vous? Je me sens plus libre et bien plus sûr que si j'étais avec mon frère. Ma mère même dit qu'on ne peut pas s'y tromper et que sûrement vous êtes très honnête. D'ailleurs, vous n'êtes pas marié. C'est la première chose que j'ai demandé à mon frère. Vous souvenez-vous que vous m'avez dit que vous enviez le sort de celui qui m'aura pour femme? Eh bien, moi, je disais dans le même moment que celle qui vous aura pour époux sera la femme la plus heureuse de Venise. Ces paroles, prononcées avec la naïveté la plus candide et avec ce ton de sincérité qui part du cœur, firent sur moi un effet difficile à décrire. Je souffrais de n'oser imprimer le plus tendre baiser sur les lèvres vermeilles qui venaient de les prononcer. Mais en même temps, j'éprouvais une délicieuse jouissance de me voir aimé de cet ange. Dans cette conformité de sentiments, lui dis-je, nous pourrions donc, aimable C, trouver le parfait bonheur si nous pouvions être unis d'une manière inséparable. Mais je pourrais être votre père. Vous, mon père, quel conte! Mais savez-vous que j'ai 14 ans? Et savez-vous que j'en ai 28? Eh bien, quel est l'homme qui, à votre âge, est une fille du mien? Je ris en pensant que si mon père vous ressemblait, assurément, il ne ferait jamais peur. Je ne pourrais avoir vis-à-vis de lui aucune réserve. L'heure du théâtre étant venue, nous débarquâmes et le spectacle l'occupa tout entière. Son frère ne vint nous retrouver que vers la fin, car cela entrait dans son calcul. Je leur donnai à souper dans une auberge où le plaisir de voir cette charmante personne manger de très bon appétit me fit oublier que je n'avais pas dîné. Je ne parlais presque pas pendant tout le souper, car j'étais malade d'amour et dans un tel état d'irritation qu'il était impossible qu'il durât longtemps. Pour excuser mon silence, j'affectais d'avoir mal aux dents. On me plaignit et on me laissa garder le silence. Après le souper, P dit à sa sœur que j'étais amoureux d'elle et que je me sentirais soulagé si elle me permettait de l'embrasser. Pour toute réponse, elle se tourne vers moi avec des lèvres riantes qui appelaient le baiser. Je brûlais, mais je respectais tant cette innocente et naïve créature que ne l'embrassais que sur la joue et encore d'une manière très froide en apparence. « Quel baiser !» s'écria P. « Allons, allons, un bon baiser d'amour !» Je ne bougeais pas. L'impudent instigateur m'ennuyait. Mais sa sœur, en détournant la tête, dit d'un air pénétré « Ne le pressez pas, car je n'ai pas le bonheur de lui plaire. » Cette expression alarma mon amour. Oh, je ne fus plus maître de moi-même. « Quoi ? » m'écriai-je avec feu. « Quoi, belle C ? Vous ne daignez pas attribuer ma retenue aux sentiments que vous m'inspirez ? Vous croyez ne pas me plaire ? Mais s'il ne faut qu'un baiser pour vous en assurer, recevez-le avec tout le sentiment que j'éprouve. » Alors, la prenant dans mes bras et la serrant amoureusement contre mon sein, je lui imprimai sur la bouche un long et ardent baiser que je mourais d'envie de lui donner. Mais, à sa nature, la timide colombe sentit qu'elle était tombée dans les serres du vautour. Elle se débarrassa de mes bras, tout étonnée de m'avoir découvert amoureux par cette voie. Son frère m'applaudissait, tandis que, pour cacher son trouble, elle se remettait en masque. Je lui demandai si elle croyait encore qu'elle ne me plaisait pas. « Vous m'avez convaincu, » me dit-elle. « Mais pour m'avoir détrompé, vous ne devez pas me punir. » Le lendemain, PC entra chez moi d'un air de triomphe, en me disant que sa sœur avait dit à sa mère que nous nous aimions et que, si elle devait se marier, elle ne pourrait être heureuse qu'avec moi. « Mais j'adore votre sœur, » lui dis-je, « mais croyez-vous que votre père veuille me l'accorder ?»« Non, non, je ne le crois pas, mais il est vieux, en attendant aimer. Ma mère permet qu'elle aille ce soir à l'opéra avec vous. Eh bien, mon cher ami, nous irons. » « Je me vois obligé de vous prier de me rendre un léger service. »« Mais ordonnez. Il y a de l'excellent vin de Chypre à vendre et à bon marché. Je puis en avoir un tonneau moyennant un billet payable en 6 mois. Je suis sûr de le revendre de suite avec bénéfice. Mais le marchand veut une caution. Et il acceptera la vôtre si vous voulez bien me cautionner. Voulez-vous signer mon billet ?» « Avec plaisir. Je signais sans biaiser, car quel est le mortel amoureux qui, en pareil cas, aurait refusé ce service à celui qui, pour se venger d'un refus, aurait pu le rendre malheureux ? Nous donnâmes ensuite rendez-vous pour le soir et nous nous séparâmes, contents l'un de l'autre. Après m'être habillé, je sortis et j'achetai une douzaine de paires de gants, autant de paires de bas de soie, une paire de jarretières brodés avec des agrafes d'or, me faisant une fête de faire ce premier présent à ma nouvelle amie. Je n'ai pas besoin de dire que je fus exact au rendez-vous. Dès que je les eus joints, PC me dit qu'ayant des affaires, il me laissait avec sa sœur et qu'il viendrait nous rejoindre au théâtre. Quand il fut parti, je dis à CC et que nous pouvions que nous allions nous promener en gondole jusqu'à l'heure de l'opéra. « Non, » me répondit-elle, « allons plutôt dans un jardin de la Zoueka. »« Mais bien volontiers. » Je prends une gondole de trajet et nous allons à Saint-Blaise, dans un jardin que je connaissais et dont, au moyen d'un sequin, je me rendis maître pour toute la journée. et personne ne pouvait plus y entrer. Il se trouva que nous n'avions dîné ni l'un ni l'autre, et ayant ordonné un bon repas, nous montons dans un appartement d'où, après avoir quitté nos habits de masque, nous redescendons dans le jardin. Les meubles cessaient avec un corset de taffetas, une petite jupe de même étoffe, mais elle était à ravir dans ce léger costume. Mon œil amoureux perçait ses voiles et mon âme la voyait toute nue. Je soupirais de désir, de retenue et de volupté. Dès que nous fûmes dans la longue allée, ma jeune compagne, leste comme la biche légère, se voyant libre sur la pelouse et n'ayant jamais jusqu'alors joui de ce bonheur, se mit à courir à droite, à gauche, avec tous les signes de la gaieté qui la dominait. Bientôt, obligée de s'arrêter faute d'haleine, elle se mit à rire en me voyant la contempler en silence dans une sorte d'extase. Bientôt, elle me défie à la course. Le jeu me plaît, j'accepte, mais je veux l'intéresser par une gageure. Celui qui perdra, lui dis-je, sera obligé de faire ce que le vainqueur voudra. Je le veux bien. Nous établissons le but et nous partons. J'étais sûr de gagner, mais je voulus perdre pour voir ce qu'elle me condamnerait à faire. D'abord, elle court de toutes ses forces, tandis que je ménage les miennes, de sorte qu'elle arrive au but avant moi. Tout en reprenant haleine, elle pense à me donner une bonne pénitence. Puis elle court se cacher derrière un arbre et me condamne à trouver sa bague. Elle l'avait cachée sur elle et par là, elle me mettait en possession de toute sa personne. Je trouvais la chose charmante, car j'y vis clairement de la malice et de l'intention. Cependant, je sentis que je ne devais pas en abuser, sa naïve confiance ayant besoin d'être encore encouragée. Nous nous asseyons sur l'herbe. Je visite ses poches, les plis de son corset, ceux de son jupon, puis ses souliers, enfin jusqu'à ses jarretières qu'elle avait attachées au-dessous du genou. N'ayant encore rien trouvé, je continue mes recherches. Et comme la bague devait être cachée sur elle, il fallait bien que je la trouvasse. Le lecteur devine sans doute que je soupçonnais la charmante cachette où ma belle l'avait mise. Mais avant de venir là, il fallait que je me procurasse une foule de jouissances que je savourais avec délice. La bague finit par être découverte entre les deux plus beaux gardiens que la nature ait jamais arrondis. Mais j'étais si ému en la retirant que ma main tremblait visiblement. « Et pourquoi tremblez-vous ? » me dit-elle. « Je tremble du plaisir d'avoir trouvé la bague, car vous l'aviez si bien cachée. Mais vous me devez ma revanche, et cette fois vous ne me vaincrez pas. Bon, nous verrons. Nous partons. » Et ne la voyant pas courir bien vite, je crus que je la devancerais à volonté. Je me trompais. Elle avait ménagé ses forces. Et quand nous fûmes aux deux tiers de la course, s'élançant tout à coup, elle me devance et je me vois perdu. Je m'avise d'une ruse dont l'effet est immanquable. Je fais semblant de tomber tout de mon long en poussant un cri douloureux. La pauvre petite s'arrête, court à moi, tout effrayée, et m'aide à me relever en me plaignant. Quand je me vois debout et devant, je me mets à rire, et prenant mon élan, j'atteins le but qu'elle en était bien loin encore. La charmante coureuse, tout ébahie, me dit « Vous ne vous êtes donc pas blessée ?»« Non, car je suis tombée exprès. »« Exprès ? Pour me tromper ?» « Oh, je vous aurais pas cru capable de cela. Il n'est pas permis de gagner par fraude. Et je n'ai pas perdu. »« Oh, si vous avez perdu, car j'ai atteint le but avant vous. Et ruse pour ruse, avouez que vous avez aussi cherché à me tromper en prenant l'élan. Mais cela est permis, et votre ruse, mon ami, est de toute autre espèce. Mais elle m'a procuré la victoire, et... Vincasi per fortuna o per inganno, il vencer sempre fu lodabile causao. Oui, c'est ce que j'ai souvent entendu dire à mon frère, mais jamais à mon père. Bref, je conviens d'avoir perdu. Alors ordonnez, condamnez-moi, j'obéirai. Attendez, asseyons-nous, car j'ai besoin d'y penser. Je vous condamne à troquer avec moi de jarretières. Des jarretières? Vous les avez vues, elles sont laides, elles ne valent rien. N'importe, je penserai deux fois par jour à l'objet que j'aime, et à peu près au même instant, vous serez obligé de penser à moi. Oh bien, l'idée est fort jolie, elle me flatte. Je vous pardonne maintenant de m'avoir trompé. Voici mes vilaines jarretières. Oh, mon cher trompeur, qu'elles sont belles. Le joli présent, qu'elles plairont à ma mère. C'est sûrement un cadeau qu'on vient de vous faire, car elles sont toutes neuves. Non, ce n'est pas un présent. Je les ai achetées pour vous. Je me suis creusé la cervelle pour trouver le moyen de vous les faire agréer. C'est l'amour qui m'a suggéré de les faire devenir le prix d'une course. À présent, vous pouvez vous figurer ma peine quand je vous ai vu au moment de me gagner. Et le dépit m'a inspiré une tromperie fondée sur un sentiment qui vous fait honneur. Car, avouez que vous auriez montré un trop mauvais cœur si vous m'étiez accouru à mon secours. Et je suis sûr que vous n'auriez pas employé cette ruse si vous aviez pu deviner le mal que vous m'avez fait. Vous vous intéressez donc bien vivement à moi. Mais je ferai tout au monde pour vous en convaincre. J'aime extrêmement mes jolies jarretières. Je n'en aurai pas d'autres, et je réponds bien que mon frère ne me les volera pas. En serait-il capable? Oh, très capable, surtout si les agrafes sont d'or. C'est de l'or. Mais dites-lui que c'est du cuivre doré. Mais vous m'apprendrez à accrocher ces jolies agrafes? Mais oui, bien certainement. Nous allâmes dîner. Après le repas, auquel je me rappelle que nous fîmes également honneur, elle devint plus gaie et moi plus amoureux, mais aussi plus à plaindre à cause de la dure loi que je m'étais faite. Impatiente de mettre ses jarretières, elle me pria de l'aider, de la meilleure foi du monde, et sans malice ni coquetterie. Trouvant que ses bas étaient trop courts pour lui attacher la jarretière au-dessus du genou, elle me dit qu'elle les mettrait avec des bas plus longs. Et à l'instant, tirant adroitement de ma poche ce que j'avais acheté, je les lui fais accepter. Joyeuse et pleine de reconnaissance, elle s'assied sur moi, et dans l'effusion de son contentement, elle me donne tous les baisers qu'elle aurait donnés à son propre père s'il lui avait fait un pareil présent. Je lui rendais ses baisers en continuant à dompter avec force la violence de mes désirs. Je me contentais de lui dire qu'un seul de ses baisers valait plus qu'un royaume. Ma charmante cessait, se déchaussa et se mit une paire de bas qui lui allait jusqu'à moitié de la cuisse. Plus je la découvrais innocente, moins j'osais me déterminer à m'emparer de cette ravissante proie. Nous redescendîmes au jardin et, après nous être promenés jusqu'au soir, nous allâmes à l'opéra, ayant soin de garder nos masques. Car, le théâtre étant petit, on aurait pu nous reconnaître, et ma délicieuse amie était sûre que son père ne lui permettrait plus de sortir, s'il venait à savoir qu'elle jouissait de ce plaisir. Et nous étions tout étonnés de ne pas voir son frère. Nous avions à notre gauche le marquis de Montalegre, ambassadeur d'Espagne, avec la demoiselle Bola, sa maîtresse en titre, et à notre droite, deux masques, hommes et femmes, qui ne s'étaient point démasqués. Ces deux masques avaient constamment les yeux sur nous. Même un jeune ami, leur tournant le dos, ne pouvait pas s'en apercevoir. Pendant le ballet, Cécé ayant mis le texte de l'opéra sur la hauteur d'appui de la loge, le masque homme allongea le bras et le prit. Jugeant par là que nous devions en être connus, je le dis à mon ami, qui se tourna et reconnut son frère. Le masque femelle ne pouvait être que son ami C. Comme PC connaissait le numéro de notre loge, il avait pris la loge voisine. Et comme ce ne pouvait pas être sans intention, je prévis qu'il allait faire souper sa sœur avec cette femme. J'en étais fâché, mais je ne pouvais éviter la chose qu'en rompant en visière, et j'étais amoureux. Après le second ballet, il vint dans notre loge avec sa belle, et après les compliments d'usage, la connaissance se trouva faite et nous dûmes aller souper à son casino. Dès que les deux dames furent démasquées, elles s'embrassèrent, et la maîtresse de PC combla ma jeune amie d'éloges et de prévenances. À table, elle affecta de la traiter avec une affabilité extrême. Et C, n'ayant pas l'usage du monde, la traita avec un extrême respect. Cependant, je voyais que C, malgré tout son art, laissait percer le dépit que lui causait la vue de la supériorité des charmes que j'avais préférés aux siens. PC, fou de gaieté, s'épuisait en plates plaisanteries, dont sa belle riait seule. Moi, dans ma mauvaise humeur, j'en haussais les épaules, et sa sœur n'y entendait rien, et par conséquent, n'y répondait point. En somme, notre quadrille mal assortie était fort maussade. Au dessert, PC, un peu échauffé par le vin, embrassa sa belle et me provoqua à imiter son exemple avec sa sœur. Je lui dis qu'aimant réellement Mademoiselle Cécé, je prendrai ses libertés lorsque j'aurais acquis le droit sur son cœur. PC se mit à plaisanter là-dessus, mais C lui opposa silence. Reconnaissant de cet acte de décence, je tire de ma poche la douzaine de gants que j'avais achetés, et après lui avoir fait présent de 6 paires, je priai mon ami d'accepter les autres. PC se leva de table en ricanant, entraînant sa maîtresse qui était un peu dans les vignes du Seigneur, et se jeta avec elle sur un canapé. La scène devenant lubrique, je me plaçai de manière à les cacher, et j'entraînai mon ami dans l'embrasure d'une fenêtre. Je n'avais pu empêcher que Cécé ne vît dans une glace la situation des deux impudents. Elle avait le visage tout en feu. Cependant, ne lui tenant que des propos décents, elle me parlait de ses beaux gants qu'elle pliait sur la console. Après son brutal exploit, l'impudent PC vint m'embrasser et sa dévergondée compagne, imitant son exemple, embrassa ma jeune amie en lui disant qu'elle était sûre qu'elle n'avait rien vu. Cécile lui répondit modestement qu'elle ne savait pas ce qu'elle aurait pu voir. Mais un regard qu'elle m'adressa me fit deviner tout ce qu'elle éprouvait. Quant à ce que j'éprouvais moi-même, je le laisse à penser au lecteur s'il connaît le cœur de l'homme. Poussé par un sentiment irrésistible, par ce qu'on appelle de l'amour parfait, dès le lendemain, j'allais voir PC, et après lui avoir dit que j'adorais sa sœur avec l'intention la plus pure, je lui fis sentir toute la peine qu'il m'avait faite en oubliant tous les égards Et cette pudeur que le libertin le plus achevé ne doit jamais blesser s'il a quelque prétention à la bonne société. Dussé-je, lui dis-je, renoncer au plaisir de voir votre angélique sœur, je suis décidé à ne plus me trouver avec vous. Mais je vous préviens que je saurai empêcher qu'elle ne sorte avec vous pour devenir entre vos mains le prix de quelque marché infâme. » Il s'excusa de nouveau sur son ivresse et sur ce qu'il ne croyait pas que j'eusse pour sa sœur un amour qui exclut la jouissance. Il me demanda pardon, m'embrassa en pleurant, et j'allais peut-être me laisser attendrir quand je vis entrer sa mère et sa sœur qui me remercièrent avec effusion de cœur du joli présent que je lui avais fait. Je répondis à la mère que je n'aimais sa fille que dans l'espérance qu'elle me l'accorderait pour épouse. Dans cet espoir, madame, ajoutai-je, je ferai parler à monsieur votre époux aussitôt que je me serai assuré un état qui me mettra à même de la faire vivre convenablement et de manière à la rendre heureuse. En disant cela, je lui baisai la main, et d'une façon si émue que les larmes me coulaient le long des joues. Ces larmes furent sympathiques et firent couler celles de cette bonne mère. Après m'avoir remercié affectueusement, elle me laissa avec sa fille et son fils, qui semblaient être transformés en statues. Ce que j'avais dit à la mère étonna la fille, mais son étonnement fut bien plus grand quand elle sut ce que j'avais dit à son frère. Après un moment de réflexion, elle lui dit qu'avec tout autre que moi, elle aurait été perdue et qu'elle ne lui aurait pas pardonné si elle avait été à la place de sa dame, car sa conduite envers elle était déshonorante autant pour elle que pour lui. PC pleurait, mais le traître était maître de ses larmes. C'était le jour de la Pentecôte, et comme il y avait relâche au théâtre, il me dit que si je voulais me trouver le lendemain au même endroit que les autres jours, il me remettrait sa sœur, et que comme l'honneur ne lui permettait pas de laisser Madame C seule, il nous laisserait dans toute liberté. « Je vous donnerai ma clé, me dit-il, et vous reconduirez ma sœur ici après que vous aurez soupé où bon vous semblera. » En achevant ces mots, il me donna la clé et que je n'eus pas la force de refuser, et il nous laissa. Je sortis un instant après lui en disant à mon ami que nous irions le lendemain au jardin de la Zoueka. « Le parti qu'a pris mon frère, me dit-elle, est le plus honnête qu'il pût prendre. » Je fus exact au rendez-vous et, brûlant d'amour, je pressentais ce qui allait arriver. J'avais eu soin de louer une loge à l'opéra, mais pour attendre le soir, nous allâmes à notre jardin. Comme c'était un jour de fête, il y avait plusieurs petites sociétés à des tables séparées, et nous voulant nous mêler avec personne, nous résolûmes de rester dans un appartement que nous nous fîmes donner, ne nous souciant de voir l'opéra que vers la fin. En conséquence, j'ordonnai un bon souper. Nous avions 7 heures devant nous et ma charmante amie me dit que nous ne nous ennuierions pas. Elle se débarrassa de son accoutrement de masque et vint s'asseoir sur mes genoux, en me disant que je l'avais achevé de la subjuguer par la manière dont je l'avais ménagée après l'affreux souper. Mais tout le raisonnement était accompagné de baisers qui, peu à peu, devenaient de flammes. « As-tu vu, me dit-elle, ce que mon frère fit à sa dame lorsqu'elle se mit à cheval sur lui ?»« Bon, je ne vis rien qu'au miroir, mais je me figurais bien la chose. » « N'as-tu pas craint que je ne te traitasse de même ?»« Oh non, je te l'assure. Mais comment aurais-je pu le craindre, sachant combien tu m'aimes ?»« Tu m'aurais tellement humilié que je n'aurais pas pu t'aimer. Nous nous réserverons pour quand nous serons mariés, n'est-ce pas, mon ami? Tu ne saurais te figurer la joie que j'ai éprouvée en t'entendant t'expliquer à ma mère. Nous nous aimerons toujours. Mais à propos, mon ami, explique-moi les mots qui sont brodés sur les jarretières. Y a-t-il une devise? Je n'en savais rien. Oh oui, c'est français. Faites-moi le plaisir de lire. Assise sur moi, elle détache une jarretière pendant que je lui détache l'autre. Et voici les deux vers que j'aurais dû lire avant de lui faire ce présent. En voyant chaque jour le bijou de ma belle, vous lui direz qu'amour veut qu'il lui soit fidèle. Ces vers, fort libres sans doute, mais me parurent bien faits, comiques et pleins d'esprit. J'éclatais de rire et je redoublais lorsque, pour la contenter, je dus lui en traduire le sens. Et comme c'était une idée neuve pour elle, j'eus besoin d'entrer dans des détails qui nous mirent tout en feu. Oh, je n'oserais plus, me dit-elle, faire voir mes jarretières à personne, et j'en suis fâché, comme j'avais pris un air pensif. Dis-moi, me dit-elle, à quoi tu penses? Bien, je pense que ces fortunées jarretières ont un privilège que je n'aurai peut-être jamais. Que je voudrais être à leur place. Je mourrais peut-être de ce désir et je mourrais malheureux. Mais non, mon ami, car je suis dans ton même cas et je suis sûr de vivre. D'ailleurs, nous pouvons hâter notre mariage. Pour moi, je suis prête à te donner ma foi dès demain, si tu veux. Nous sommes libres et mon père devra y consentir. Oui, tu raisonnes juste. Car l'honneur même l'y forcerait. Cependant, je veux lui donner une marque de respect en te faisant demander, et ensuite, notre maison sera bientôt faite. Ce sera dans 8 ou 10 jours. Oh, si tôt, tu verras qu'il répondra que je suis trop jeune. Et il dira peut-être vrai. Non. Car je suis jeune, mais non pas trop, et je suis bien sûr que je puis être ta femme. J'étais sur une fournaise, et toute résistance au feu qui me brûlait commençait de me devenir impossible. Mais toi que je chéris, lui dis-je, es-tu bien sûr que je t'aime? Ne crois-tu capable de te tromper? Es-tu certaine de ne jamais te repentir d'être mon épouse? J'en suis plus que certaine, mon cœur, car tu ne saurais vouloir faire mon malheur. Eh bien, devenons époux dès cet instant. Dieu seul sera témoin de nos serments, et nous ne saurions en avoir le plus loyal, car il connaît la pureté de nos intentions. Donnons-nous réciproquement notre foi. Unissons nos destinées, soyons heureux. Nous fortifierons notre tendre lien du consentement de ton père et des cérémonies de la religion, aussitôt qu'il nous sera possible. En attendant, sois à moi, sois tout à moi. Dispose de moi, mon ami. Je promets à Dieu et à toi d'être de ce moment et pour ta vie ta fidèle épouse. Je m'expliquerai ainsi à mon père, au prêtre qui bénira notre union, enfin à tout le monde. Mais je te fais le même serment, ma tendre amie, et je t'assure que nous sommes parfaitement mariés. Allez, viens dans mes bras, achève mon bonheur. Oh mon Dieu, est-il possible que je touche de si près au bonheur? Après l'avoir tendrement embrassé, j'allais dire à la maîtresse du casino de ne nous apporter à manger que lorsque nous l'appellerions et de ne point nous interrompre. Pendant cela, ma charmante Cécé s'était jetée sur le lit tout habillée, mais je lui dis que les voiles importuns effarouchaient l'amour et, en moins d'une minute, J'en fis une nouvelle Ève, belle et nue, comme si elle n'avait fait que sortir des mains du suprême artiste. Sa peau, douce comme un satin, était d'une blancheur éblouissante, que relevait encore sa superbe chevelure d'ébène que j'avais étendue sur ses épaules d'albâtre. Sa taille svelte, ses hanches saillantes, sa gorge parfaitement moulée, ses grands yeux d'or, tout s'échappait à la fois à la douceur et l'étincelle du désir. Tout en elle était d'une beauté parfaite, présentait à mes avides regards la perfection de la mère des amours, embellie de tout ce que la pudeur répand de charme sur les attraits d'une belle femme. Hors de moi-même, je commençais à craindre que mon bonheur ne fût pas réel, ou qu'il ne pût pas devenir parfait pour une complète jouissance, quand l'amour malin s'avisa, dans un moment si sérieux, de me fournir matière à rire. « Serait-ce une loi, me dit ma déesse, que l'époux ne dût pas se déshabiller ?»« Non, cher ange, non. Et si c'en était une, je la trouverais trop barbare pour m'y soumettre. » En un instant, je fus débarrassé de tous mes vêtements, et mon amante se livra à son tour à toutes les impulsions de l'instinct et de la curiosité. Car tout en moi était nouveau pour elle. Enfin, comme accablée de la jouissance des yeux, elle me presse contre son sein et s'écrie « Oh, mon ami, quelle différence de toi, mon oreiller !»« À ton oreiller, mon cœur, mais tu ris, explique-moi cela. »« Oh, c'est un enfantillage, mais tu n'en seras pas fâché. » « Mais fâché, pourrais-je être avec toi dans le plus doux instant de ma vie ?»« Eh bien, depuis plusieurs jours, je ne pouvais pas m'endormir sans tenir mon oreiller entre mes bras. Je le caressais, je l'appelais mon cher mari, je me figurais que c'était toi, et quand une douce jouissance m'avait rendu immobile, je m'endormais, et le matin, je retrouvais mon grand coussin entre mes bras. » Ma chère Cécé devint ma femme en héroïne, car l'excès de son amour lui rendit la douleur même délicieuse. Après 3 heures passées dans les plus doux ébats, je me levai, j'appelai pour qu'on nous apportât à souper. Le repas fut frugal mais délicieux. Nous entre-regardions sans parler, car que nous dire qui valut ce que nous sentions? Nous trouvions notre bonheur extrême et nous en jouissions dans la persuasion que nous pouvions le renouveler à notre gré. L'hôtesse monta pour nous demander si nous désirions quelque chose. Elle nous demanda si nous n'irions pas à l'opéra qu'on disait si beau. Mais est-ce que vous n'y avez jamais été? « Jamais, car pour des gens comme nous, c'est trop cher. Ma fille en est si curieuse, que Dieu me pardonne, je crois qu'elle se donnerait pour avoir le plaisir d'y aller une fois. »« Mais le père est cher, » dit ma petite femme en riant. « Mon ami, nous pourrions faire son bonheur sans qu'il lui en coûtât si cher, car cela se fait bien mal. »« J'y pensais, mon ami, tiens, voilà la clé de la loge. » « Tu peux leur en faire présent. »« Tenez, » dit-elle à l'hôtesse, « voici la clé d'une loge du théâtre, Saint-Moïse. Elle coûte 2 sequins, allez-y à notre place. Et dites à votre fille de garder sa rose pour quelque chose de mieux. Pour que vous puissiez bien vous divertir, la mère, voilà 2 sequins, lui dis-je. Allez, faites bien amuser votre fille. » La bonne femme, tout ébahie de la générosité de ses hôtes, courut trouver sa fille pendant que nous applaudissions de nous être mis dans la nécessité de nous recoucher. L'hôtesse remonta avec sa fille, belle blonde, très appétissante, et qui veut absolument baiser la main à ses bienfaiteurs. « Elle va partir à l'instant avec son amoureux, » nous dit la mère. « Il est là-bas. » Mais je ne laisserai pas aller seul, car c'est un gaillard, j'irai avec eux. Fort bien, ma bonne, mais à votre retour, faites attendre la gondole qui vous mènera. Nous vous en servirons pour retourner à Venise. Quoi, vous voulez rester ici jusqu'à notre retour? Oui, car nous sommes mariés aujourd'hui. Aujourd'hui, oh Dieu vous bénisse! S'étant alors approchée du lit pour l'arranger, elle aperçut les traces vénérables de la sagesse de mon épouse, et dans un mouvement de joie, elle vint embrasser ma chère C.C. Ensuite, elle se mit à faire un sermon à sa fille, en lui montrant ce qui, selon elle, faisait un honneur infini à la jeune mariée. Marque respectable, disait-elle, que l'hymen ne voit que rarement de nos jours sur son autel. La fille répondit en baissant ses beaux yeux bleus qu'elle était sûre qu'il lui en arriverait autant à ses noces. J'en suis certaine aussi, car je ne perds jamais de vue. Allez, va chercher de l'eau dans cette cuvette et porte-la ici, car cette charmante mariée doit en avoir besoin. La fille obéit. Ensuite, ses femmes étant sorties, nous nous couchâmes et 4 heures de délicieuse extase se passèrent avec une extrême rapidité. Notre dernière lutte aurait été plus longue s'il n'était venu à ma charmante amie le caprice de se mettre à ma place et de renverser les rôles. Épuisés de bonheur et de jouissance, nous nous endormions quand l'hôtesse vint nous dire que la gondole nous attendait. Je me levai de suite pour lui ouvrir, dans l'espoir de rire de ce qu'elle nous conterait de l'opéra. Mais elle laissa ce soin à sa fille, qui était montée avec elle et alla nous préparer du café. La blondine aida mon amie à se rhabiller, mais de temps en temps, elle me donnait des œillades qui me donnèrent à penser qu'elle avait plus d'expérience que sa mère ne lui en supposait. Rien n'était plus indiscret que les yeux de ma charmante maîtresse. Ils portaient les marques irrécusables de ses premiers exploits. Mais aussi, elle venait de soutenir un combat qui l'avait positivement rendu tout autre qu'elle n'était auparavant. Nous prîmes du café bien chaud et je dis à notre hôtesse de nous préparer pour le jour suivant un dîner délicat. Ensuite, nous partîmes. L'aube du jour commençait à poindre lorsque nous débarquâmes à la place Sainte-Sophie pour mettre en défaut la curiosité des gondoliers, et nous nous quittâmes heureux, contents et certains que nous étions parfaitement mariés.